Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Et c'est le temps des infos avec le journal de la rédaction et avec vous surtout Aurélie Kiefer. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La reprise s'accélère dans la zone euro, mais l'économie française est toujours en panne. Analyse dans un instant de Jean-Marc Chardon. Les déclarations d'intérêt des parlementaires sont en ligne sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. L'UMP Henri Guénot trouve dégradant, je cite, de se déshabiller en place publique, mais tout le monde n'est pas de cet avis. L'armée israélienne se défend de commettre des crimes de guerre. Pour faire comprendre ses méthodes, elle a déclassifié des images de ses opérations sur le terrain, nous expliquera Ludovic Piétenu. Et puis une force régionale pour lutter contre beaucoup Boko Haram, Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun s'unissent contre la secte islamiste. La croissance du secteur privé en zone euro a connu en juillet son rythme le plus rapide des trois derniers mois. Cette nouvelle encourageante ne concerne malheureusement pas la France où l'activité dans le privé s'est contractée une nouvelle fois. Et les espoirs d'une vraie reprise s'amenuisent, Jean-Marc Chardon.
Oui, c'est le scénario plusieurs fois repoussé qui est en train de se réaliser, celui d'une croissance qui n'arrive pas à retrouver un rythme de croissance justement suffisant. L'année a commencé sur un premier trimestre décevant, sans croissance, et voilà que le second s'annonce médiocre, pas sûr qu'il atteigne les 0,2%. À ce compte-là, non seulement la France ne peut espérer aller à 1% de croissance, comme l'escomptait le gouvernement, mais aura beaucoup de mal à parvenir à 0,7% qui semblait encore plausible il y a quelques semaines. C'est que la plupart des indicateurs confirment que l'économie tourne au ralenti. Dans l'industrie, hors automobile, c'est morose et carrément mauvais. Dans le bâtiment, un léger mieux dans les services, mais pas de nature à inverser des courbes qui sont sans élan. Alors dans ces conditions, le gouvernement sait déjà qu'il va se retrouver à la rentrée dans une situation très difficile. Si le recul de la croissance se confirme, c'est 6 à 8 milliards d'euros qui vont lui manquer pour réussir son équation budgétaire et tenir ses engagements auprès de Bruxelles. Or, François Hollande a déjà prévenu qu'il n'était pas question de changer le dispositif d'économie annoncé, pas question d'alourdir les prélèvements. Alors comment pourra-t-il faire pour éviter de nouveaux dérapages budgétaires si la croissance, si la relance n'est pas au rendez-vous? C'est toute la polémique autour de la politique du gouvernement qui va se retrouver posée.
Près d'un milliard et demi de personnes vivent dans la pauvreté, souligne le programme des Nations Unies pour le développement dans son rapport 2014. Globalement, la pauvreté recule, mais le PNUD s'inquiète des inégalités croissantes. Il faut spécifiquement protéger celles et ceux qui sont menacés par des catastrophes naturelles, des changements climatiques ou des chocs financiers, souligne le rapport, qui cite le prix des denrées alimentaires et les conflits violents comme autres facteurs aggravant de la pauvreté. Confrontée à l'érosion de la rentabilité du TGV, la SNCF réfléchit à l'avenir de son train à grande vitesse. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise publique se sont retrouvés en séminaire pour plancher sur le sujet. Ses profits en baisse s'expliquent par des péages de plus en plus élevés de la part de RFF, Réseau Ferré de France. Ils représentent jusqu'à 40% du prix du billet. Autre facteur, la baisse du taux de fréquentation. Souvent perdu dans la jungle tarifaire de la SNCF, de plus en plus d'usagers utilisent des moyens de transport alternatifs. Face à ce constat, Hakim Kasmi, la SNCF travaille sur trois hypothèses.
Oui, trois scénarios, pourrait-on dire même radicaux. Le premier est drastique, loin de la mission de service public de la SNCF. Eh bien, ce scénario, il passe et prévoit de réduire l'activité grande vitesse en passant de 180 à 80 gares desservies d'ici 10 ans. Les destinations supprimées seraient en fait compensées par des corails ou bien des TER. Le tout serait concentré autour de grands hubs régionaux, un peu comme dans l'aérien avec le hub de Roissy Charles de Gaulle en fait. L'exploitation du TGV Rhin-Rhône serait également supprimé. Quant au nombre de rames en circulation, il serait divisé par deux, avec une priorité donnée aux rames duplex. Ce sont les TGV à deux étages, ce qui permettrait de réduire le nombre de 20% le nombre de places disponibles et ce qui permettrait aussi d'avoir un meilleur taux de remplissage. Un scénario radical qui n'a pas de grandes chances de passer pour l'instant, car politiquement incorrect, il pourrait susciter la colère des élus qui tiennent à leur gare, mais aussi celle d'Alstom, qui est le principal fournisseur de TGV de la SNCF et qui du coup se retrouve 15 ans sans commande de train à grande vitesse. La seconde hypothèse, plus radicale et surtout qui a plus de chances de passer, eh bien celle-ci est d'utiliser mieux les 400 TGV du réseau qui roulent en moyenne 5 heures par jour, ce qui permettrait aussi de jouer la carte du développement durable. En baissant ses prix de 10 à 20%, la SNCF voudrait en fait récupérer ses clients qui la boudent au détriment de la voiture mais aussi de l'avion. Un modèle séduisant, sauf qu'il manquerait pour l'instant 400 millions d'euros pour le boucler. Enfin, l'autre solution Et la plus probable, celle-ci, est en fait d'être plus rationnelle et de mieux rationaliser les coûts, avec notamment l'exploitation des TGV Ouigo. Ce sont ces TGV low cost qu'on voit des fois défiler sur les rails. Ils sont roses et bleus. Alors, on le voit bien, hein, cette solution intervient juste après l'adoption finale au Parlement de la réforme ferroviaire. Et c'est donc une manière pour la SNCF de préparer ses salariés à la réforme à l'arrivée de la concurrence qui arrivera en 2019.
C'est l'une des conséquences de l'affaire Cahuzac. Pour la première fois aujourd'hui, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique met en ligne les déclarations d'intérêts et d'activités de quelques 900 députés et sénateurs. Ils doivent mentionner une éventuelle profession exercée en parallèle, des fonctions, même bénévoles, la détention d'actions de société, et cela va même jusqu'aux activités des conjoints et des collaborateurs parlementaires. Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Aurélie.
Toutes ces informations sont désormais disponibles sur le site de la Haute Autorité.
Des déclarations publiées il y a moins d'une heure, impossible encore donc de tout éplucher, mais le grand déballage a commencé pour les 925 députés et sénateurs. À l'UMP, par exemple, Jean-François Copé a dû expliquer qu'en tant qu'avocat, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, il a gagné plus d'un demi-million d'euros en 2012 et 2013, en plus de ses indemnités de 75 000 euros annuels pour ses fonctions de député-maire. Sa conjointe fait partie de ses collaborateurs parlementaires et puis, au bas de sa déclaration, signée en janvier dernier, avant même la révélation de l'affaire Big Malion, Jean-François Copé a précisé qu'il se tenait à la disposition de la Haute Autorité pour tout justificatif complémentaire qu'elle souhaiterait. Publication plus succincte pour Jérôme Chartier, député UMP du Val-d'Oise et membre de la Commission des Finances. Il a revendu son cabinet de conseil et sa holding de participation en devenant député en 2002. Hormis les 114 000 euros qu'il gagne en tant que député-maire de Domont, aucune rémunération. Une transparence à laquelle souscrit totalement Jérôme Chartier.
Ça fait maintenant 13 ans que je suis parlementaire, ça fait des années que j'ai même pris l'initiative tout seul, voyez-vous, de mettre à jour régulièrement cette déclaration d'intérêt. Ça me semble bien, il faut qu'on déclare les noms de ses collaborateurs et moi régulièrement, je vais adresser une fois par an au président de l'Assemblée l'évolution des noms de mes collaborateurs. Vous voyez comme quoi ça ne me gêne absolument pas, mais surtout pas parce qu'au fond, c'est une démarche. Vous voyez, lorsque vous n'avez rien à cacher, que vous n'avez rien à vous reprocher, eh bien les arguments viennent tout seuls.
De son côté, le socialiste Dominique Raimbourg, rapporteur de la réforme pénale à l'Assemblée, a dû lui préciser qu'il n'exerçait plus sa profession d'avocat pour prévenir tout soupçon de conflit d'intérêts. Une transparence que n'approuve pas en revanche un autre député, un député de l'UMP, Henri Guénot. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée trouve cette loi, ses règles, absolument dégradantes pour la vie publique.
Merci Catherine Dutu. Gaston Flosse demande une grâce présidentielle. Le sénateur et président de la Polynésie française, condamné à 3 ans d'inéligibilité dans une affaire d'emploi fictif, va aussi engager un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Deux jeunes gens sont en garde à vue à Paris après avoir été interpellés en marge de la manifestation pro-palestinienne d'hier soir. L'un était en possession d'une bombe lacrymogène, l'autre d'un masque à gaz. Par ailleurs, 16 personnes qui auraient proféré des insultes antisémites rue des Rosiers sont toujours en garde à vue. Ce matin, Laurent Fabius, interrogé sur France Inter, a réaffirmé la fermeté absolue des autorités françaises vis-à-vis de l'antisémitisme. « Les Juifs de France ne doivent pas avoir peur », a déclaré le ministre. « L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit et ce délit doit être condamné ». Mais précisément, qu'est-ce qui est condamné par la justice? Où se trouve la limite? Écoutez l'éclairage que nous apporte Antoine Comte, avocat au barreau de Paris.
Il y a une frontière bien précise entre les slogans politiques qui sont acceptables et les formules qui sont évidemment injurieuses à l'égard d'une catégorie de personnes à raison de leur origine. Quand on dit « mort aux Juifs »,« mort aux Arabes », c'est évidemment des formules qui tombent sous le coup de la loi et sanctionnent les injures racistes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je crois qu'il faut bien faire le départage entre ces formules-là et des formules qui critiquent un État ou qui critique une idéologie. Et là-dessus, je crois que la liberté d'expression doit prendre son droit le plus complet. Dire qu'Israël est assassin, c'est évidemment pas un slogan très, très fin, mais c'est en même temps un slogan qui critique un État. Et je pense que de ce point de vue-là, la jurisprudence à la fois française et européenne est extrêmement claire. On admet cette critique politique. Il faut se rappeler tout de même que pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis étaient traités d'assassins. US assassins, on l'a entendu pendant toute notre jeunesse, et ceux qui sont au pouvoir l'ont probablement proféré aussi. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ne pas criminaliser tout discours politique. Alors les discours politiques, ils sont pas toujours très élégants. On entend la droite dire que le socialisme est une forme de totalitarisme. Alors ça voudrait dire quoi? Il faudrait arrêter ce débat-là, poursuivre les gens. Je peux vous dire que ça ferait beaucoup de gens à poursuivre. Alors je crois qu'il faut faire très très attention et éviter de criminaliser les débats politiques, aussi excessifs soient-ils.
Maître Antoine Comte répondait à Stéphane Robert. Pas de répit dans la bande de Gaza malgré la poursuite des efforts diplomatiques. Depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, quelques 725 Palestiniens ont été tués, majoritairement des civils. C'est ce qui a amené le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à réclamer une enquête sur de possibles crimes de guerre d'Israël. Accusation évidemment balayée par Israël. Nous sommes en direct avec Ludovic Piétenu à Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Alors quels sont les arguments de l'armée israélienne pour justifier ces méthodes ?
Bien, depuis le début de ce conflit, Israël cherche à ne pas répéter les erreurs de sa dernière incursion terrestre dans la bande de Gaza. Début 2009, l'opération Plomb durci et le rapport onusien surtout qui en avait découlé, celui du juge sud-africain Goldstone, qui avait conclu il y a 5 ans à des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité. C'est donc pour s'en prémunir au maximum que dès le début de cette offensive, il y a 17 jours maintenant, l'armée israélienne a décidé de déclassifier de façon ultra rapide certaines images satellites, des vidéos de drones, des vidéos de tirs de missiles depuis des navires ou les avions F-16. En bref, d'offrir à l'opinion internationale, grâce à Internet et aux médias traditionnels, le maximum d'images de ces opérations sur le terrain. Le problème, Aurélie, c'est que nous sommes dans une guerre asymétrique. L'armée la mieux équipée du Moyen-Orient contre des brigades armées palestiniennes, des armes sophistiquées et puissantes face à des armes qui le sont moins, même si la force de frappe du Hamas s'est améliorée en quelques années. La critique internationale est donc inévitable pour l'armée israélienne qui ne nie pas, parce qu'elle les juge légales, l'utilisation de certaines armes pourtant éminemment dangereuses pour les populations civiles et déjà critiquées dans le rapport Goldstone comme les armes au phosphore ou les bombes à fléchettes. L'armée israélienne, à l'inverse, applique un enseignement de ce rapport qui lui permet, selon elle, de réfuter toutes les autres critiques, voire même, comme l'a affirmé encore ce matin le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de renvoyer l'entière responsabilité de la mort des civils palestiniens sur le Hamas. C'est qu'elle dit avertir, prévenir par tous les moyens et systématiquement les habitants du quartier qu'elle s'apprête à viser.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Jérusalem. François Hollande vient d'annoncer le déblocage par la France de 11 millions d'euros pour l'aide humanitaire à Gaza. Alors qu'un nouveau président doit être désigné aujourd'hui par le Parlement irakien, Ban Ki-moon plaide en faveur d'un véritable gouvernement d'union. L'Irak est face à une menace existentielle, souligne le secrétaire général de l'ONU. Il doit surmonter la menace d'une division confessionnelle et ethnique. En fin de semaine dernière, à Mossoul, les djihadistes ont lancé un ultimatum aux chrétiens de la ville. Ils devaient soit se convertir à l'islam, soit périr par le glaive. Alors les 3000 chrétiens de Mossoul sont partis sur les routes, Clémence Fuléda.
Beaucoup de chrétiens ont quitté Mossoul avant même cet ultimatum. C'est le cas de l'évêque chaldéen de la ville, Monseigneur Émile Nona. Il est parti dès l'arrivée des djihadistes le 10 juin dernier.
Les soldats et les policiers avaient quitté la ville. Mossoul était sans aucune protection. Nous avons eu peur de ces groupes fondamentalistes qui arrivaient. Aujourd'hui, je suis dans un village chrétien à 3 km au nord de Mossoul, avec 60 familles. La situation ici est mauvaise, nous n'avons pas d'eau, nous avons besoin d'aide pour vivre dignement. J'espère que la communauté internationale va aider ces familles.
D'autres chrétiens ont fui plus loin encore. Certains sont allés jusqu'à Kirkouk, à 160 km au sud de Mossoul, non loin du Kurdistan irakien. Monseigneur Youssef Thomas, archevêque chaldéen, a recensé 70 familles chrétiennes dans cette ville. 2 sont hébergées dans son séminaire.
Ils sont logés dans une salle où il y a de l'eau et de l'électricité. Ils sont sortis avec leurs vêtements. Même leurs papiers d'identité leur ont été volés. On peut les aider tant bien que mal, mais c'est terrible l'impact que ça aura sur la psychologie des enfants et des gens. Et beaucoup commencent à vouloir quitter le pays, à essayer d'aller ailleurs, que ce soit en Turquie, soit en Jordanie, soit au Liban.
Mais privés de papiers et de leurs biens, peu parviennent à passer la frontière. Alors des campements de fortune s'érigent un peu partout dans le nord de l'Irak. Selon l'ONU, au total, 10 000 chrétiens vivraient dans ces conditions.
4 États africains créent une force commune pour lutter contre Boko Haram. Le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun fourniront chacun 700 hommes pour constituer cette force régionale. Depuis le début de l'année, la secte islamiste serait responsable de la la mort de quelques 2000 civils et elle est considérée comme une menace croissante pour la région, Claire Chaudière.
Oui, si le Nigeria est le pays le plus exposé à la menace, les autorités et forces de police du Niger et du Tchad sont déjà sur le qui-vive depuis des mois. Quant au Cameroun, il était jusqu'ici plutôt critiqué pour sa passivité dans la lutte contre Boko Haram. Yaoundé a visiblement changé d'avis. Alors on est face à quatre pays qui avaient déjà acté à Paris en mai dernier un rapprochement pour intensifier la lutte. Mais on passe là à la vitesse supérieure avec une force militaire multinationale. Donc chaque État s'engageant, vous l'avez dit, à fournir 700 hommes. Une force militaire et surtout de partage du renseignement pour tenter d'éviter de futurs attentats. Les enjeux sont évidemment sécuritaires. Le bilan de la secte islamiste sur 5 ans est énorme, 10 000 morts. Mais ils sont aussi économiques. La fermeture des frontières pour limiter l'infiltration de la secte touche pas mal de secteurs, notamment au Cameroun. Cette semaine, alors que la communauté internationale a marqué les 100 jours de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram et dont on est toujours sans nouvelles, au moins 42 personnes ont encore trouvé la mort dans une attaque attribuée au groupe, même si elle n'a pas encore été revendiquée. L'organisation terroriste n'hésiterait plus à s'en prendre aux musulmans, y compris à des dignitaires musulmans, puisque c'est une figure religieuse très critique envers Boko Haram qui était visée, ainsi qu'un ancien chef de l'État. Un couvre-feu a été décrété autour de la ville de Kaduna, dans le nord du pays où s'est produit cette attaque.
La météo, 3 départements de l'Ouest placés en alerte orange pour orage, le Finistère, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Ailleurs, le temps sera agréable. Les températures maximales, 23 degrés en Normandie, jusqu'à 30 dans le Sud.